Bonjour, ici Marc, bienvenue à l'épisode 97 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la quatrième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit, qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Oui, en esclavage, je n'exagère pas, comme je pense que vous constaterez en écoutant. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Pas de plan directeur. Si demain, par miracle, tout le monde abandonnait la croyance en l'autorité, la grande majorité des vols, des agressions et des meurtres dans la société cesseraient immédiatement. Toutes les guerres cesseraient, tous les vols commis au nom de la fiscalité s'arrêterait, toutes les oppressions commises au nom de la loi cesseraient. Le peuple dans son ensemble, y compris les auteurs, les victimes et les spectateurs de l'oppression, ne considérerait plus ces actes d'agression comme légitimes. Mais il y aurait aussi un autre changement, moins immédiat. La croyance en l'autorité est, par essence, une cage psychologique. Elle entraîne les gens à croire qu'ils n'ont pas besoin de juger ce qui est bien ou mal, qu'ils n'ont pas besoin de prendre sur eux de réparer la société, que tout ce qu'on attend d'eux est qu'ils suivent les règles et fassent ce qu'on leur dit, en laissant les dirigeants et les législateurs régler les problèmes de la société. En bref, la croyance en l'autorité entraîne les gens à ne jamais grandir, à toujours voir le monde comme le voient les enfants. Un endroit incompréhensiblement compliqué qui est et sera toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Quel que soit le problème, pauvreté, criminalité, maladie, problèmes économiques ou environnementaux, les étatistes endoctrinés sont toujours à la recherche d'un nouveau leader à élire qui promet d'arranger les choses. D'une certaine manière, un monde d'autoritaristes fonctionne exactement comme une classe de maternelle. Si quelque chose ne va pas, si quoi que ce soit sort du programme prévu, planifié à l'avance et contrôlé de manière centralisée, les enfants demandent à l'enseignant de tout arranger. L'environnement autoritaire d'une salle de classe enseigne aux enfants qu'ils ne sont jamais responsables, que ce n'est jamais à eux de décider ce qu'il faut faire. Ils sont fortement dissuadés de penser ou d'agir par eux-mêmes. Après tout, s'ils étaient autorisés à penser et à prendre leurs propres décisions, la première décision que la plupart d'entre eux prendraient serait de quitter la classe. De même, on répète constamment aux adultes autoritaires qu'il ne faut pas se faire justice soi-même. Les gens sont formés à appeler les autorités chaque fois qu'il y a un conflit ou un autre problème, puis à faire docilement tout ce que les agents du gouvernement leur disent de faire. En cas de litige entre des personnes, on leur dit qu'elles doivent toujours se tourner vers les maîtres, que ce soit en appelant la police ou en se rendant dans des tribunaux autoritaires pour régler les différends. Lorsqu'ils discutent des défis sociétaux, les gens bien formés de l'État parlent en des termes tels que « il faudrait une loi pour » ou bien « le gouvernement devrait faire » Ils considèrent leur vie comme faisant partie d'un gigantesque plan directeur et il s'ensuit logiquement que s'ils veulent que leur vie soit améliorée, la solution consiste à demander au planificateur de modifier le plan. Ce point de vue est tellement ancré dans les mentalités que de nombreuses personnes n'arrivent pas à comprendre l'idée que des individus puissent vivre leur vie sans faire partie d'un plan d'ensemble géré par d'autres. C'est ce que démontre la réaction courante des autoritaires à l'idée d'une société sans dirigeant. Presque sans exception, un étatiste qui réfléchit à une société sans État commencera par demander comment les choses fonctionneront sans classe dirigeante. Il ne pose pas cette question simplement parce qu'il est curieux de savoir comment les routes, la défense, le commerce, la résolution des conflits et d'autres choses pourraient fonctionner sans gouvernement. Il pose cette question parce qu'il a toujours été formé à considérer l'existence humaine dans le cadre d'un plan directeur centralisé qui est imposé par la force et qu'il est par conséquence incapable de penser en dehors de ce paradigme. Il demandera donc comment les choses fonctionneront sous l'anarchie et parlera de système, imaginant qu'il s'agit d'un nouveau type de plan directeur à infliger aux masses, alors que, bien sûr, c'est exactement le contraire, une absence totale de plan centralisé imposé par la force. Mais un plan global pour l'humanité est tout ce que l'étatiste a jamais envisagé, et c'est souvent tout ce qu'il peut comprendre. L'idée que personne ne sera aux commandes, que personne n'établira les règles pour tous les autres, que personne ne planifiera ou ne gérera l'humanité dans son ensemble, et que personne ne dira à l'étatiste ce qu'il doit faire, est tout simplement quelque chose que la plupart des autoritaires n'ont même jamais imaginé. Le concept leur est si peu familier qu'ils ne savent même pas comment l'aborder, et ils essaient donc désespérément de faire entrer l'idée d'anarchie, une société sans État, dans le moule d'un plan directeur. Notons en passant que cette pensée contradictoire n'est que renforcée par ceux qui portent l'étiquette d'anarcho-communiste. Ce terme implique qu'il n'y aurait pas de classe dirigeante et que la société serait organisée en un système collectiviste. Bien entendu, si un groupe revendique le droit d'imposer par la force un tel système à tous les autres, il s'agit d'autoritarisme et la partie anarcho du terme ne s'applique donc pas. Une autre possibilité est que ceux qui se qualifient d'anarcho-communistes espèrent qu'en l'absence d'une classe dirigeante, tous les habitants de cette planète choisiraient librement de participer à des communes ou à des collectifs, ce qui est bien sûr invraisemblable. Enfin, peut-être que les anarcho-communistes choisiraient, pour eux-mêmes, de faire partie d'une commune, mais permettraient aux autres de choisir d'autres arrangements. En fin de compte, le terme anarcho-communiste n'a guère de sens et est en fait un symptôme d'autoritarisme. Même lorsqu'il prône une société sans État, certains imaginent automatiquement qu'il doit y avoir un système ou un plan global, un grand projet, une forme de gestion sociétale qui doit être imposée à l'ensemble de l'humanité. La vérité est qu'avec ou sans le mythe de l'autorité, personne ne peut garantir la justice ou la prospérité, ni prédire tout ce qui peut arriver, ni connaître tous les problèmes qui peuvent se poser, ni savoir comment les résoudre. La différence est que ceux qui croient en l'autorité continuent de prétendre, malgré les preuves accablantes du contraire, qu'un système de contrôle autoritaire peut garantir la sûreté, la sécurité, la prospérité, l'équité et la justice. En revanche, ceux qui ont abandonné la superstition la plus dangereuse ne prétendent plus qu'il est possible de contrôler tout le monde par le biais d'un quelconque système. Bizarrement, malgré le degré presque incompréhensible de désastre économique, de souffrance humaine et d'oppression de masse que la croyance en le gouvernement a causé à maintes reprises, les partisans de l'autoritarisme insistent toujours pour que ceux qui s'opposent à l'étatisme soient capables de décrire dans les moindres détails comment tout fonctionnerait dans la société en l'absence de « gouvernement », de sorte que rien de mauvais ne puisse se produire. Et s'ils n'y parviennent pas, puisqu'évidemment personne ne le peut, l'étatiste proclame alors que c'est la preuve que l'anarchie ne fonctionnera jamais. Une telle idée n'est pas une conclusion rationnelle, mais plutôt le symptôme d'une dépendance mentale profonde et d'une peur de l'inconnu. Les étatistes veulent la promesse qu'une entité omnisciente et toute-puissante s'occupera d'eux et les protégera de tous les malheurs possibles et de toutes les mauvaises personnes dans le monde. Le fait que les politiciens fassent de telles promesses depuis toujours et qu'ils ne les aient jamais tenues, parce qu'elles sont manifestement ridicules, n'empêche pas les étatistes de vouloir entendre cette promesse. Peu importe le nombre d'échecs cuisants des solutions autoritaires, la plupart des gens continuent de penser que la seule solution est un autre plan gouvernemental. Ce qu'ils veulent, c'est la garantie qu'une entité toute puissante, extérieure à eux-mêmes, veillera à ce que leur vie soit confortable et sûre. Ils ne semblent pas se soucier, ni même remarquer, que de telles garanties ne se réalisent jamais, et que quiconque prétend avoir le pouvoir de faire une telle garantie est soit un menteur incroyablement audacieux, soit un fou. Néanmoins, parce que les anarchistes et les « gens qui veulent le consentement dans tous les rapports humains », en anglais « voluntarist », si vous avez un mot en français, merci de me dire. Donc, parce qu'il ne ferait jamais la promesse absurde que « sans gouvernement, rien de mal n'arrivera jamais », la plupart des étatistes restent terrifiés par l'idée d'une société sans État. Note personnelle de l'auteur. J'ai constaté que chaque fois que le sujet d'une société sans État est abordé dans mes discussions avec des étatistes, ils commencent presque toujours à poser des questions à la voix passive. Comment ceci sera-t-il fait? Comment cela sera-t-il géré? Ils parlent comme si, même lorsqu'il s'agit de leur propre vie, ils n'étaient que des spectateurs attendant de voir ce qui va se passer. C'est parce que, pendant leurs années de formation, en particulier à l'école, ils n'ont été que des spectateurs. Les scénarios de leur vie ont été écrits par d'autres. Leur destin a été déterminé et décidé par l'autorité et non par eux-mêmes. Alors, pour les aider à sortir de cet état d'esprit, lorsqu'ils me demandent quelque chose comme « Sous l'anarchie, comment cette chose sera gérée ?» Je leur réponds « Comment feriez-vous ?» Lorsqu'ils demandent « Qu'est-ce qui serait fait face à ce problème potentiel ?» Je demande « Que feriez-vous à ce sujet ?» Et ils sont généralement capables de trouver des idées de but en blanc qui sont meilleures que n'importe quelle solution autoritaire. Le problème n'est pas qu'ils sont incapables de se prendre en charge, de gérer leur avenir et, de fait, l'avenir du monde. Le problème est qu'il ne leur est jamais venu à l'esprit qu'ils sont déjà aux commandes d'eux-mêmes, de leur avenir et de l'avenir du monde. Une personne qui comprend que l'autorité est un mythe n'a aucune obligation d'expliquer comment chaque aspect d'une société libre fonctionnerait, pas plus qu'une personne qui dit que le Père Noël n'existe pas est obligée d'expliquer comment Noël fonctionnera sans lui. Cependant, les étatistes insistent souvent, comme condition pour ne serait-ce qu'envisager la possibilité d'une société sans État, que quelqu'un leur explique comment chaque aspect de la vie de chacun fonctionnera sans gouvernement. Bien sûr, personne ne sait, avec ou sans le mythe du « gouvernement », ce qui se passera. Et il est absurde de s'accrocher à un mythe manifestement faux et contradictoire qui a conduit à des meurtres et de l'extorsion et de l'oppression à grande échelle uniquement parce que quelqu'un n'a pas réussi à décrire en détail un monde parfait sans le mythe. Les gens peuvent faire des suggestions ou des prédictions sur la façon dont les différents aspects d'une société libre fonctionneraient sans l'implication de l'autorité, et de nombreux traités savants font exactement cela, mais une fois qu'une personne a vraiment compris la folie inhérente à toute croyance en l'autorité, elle ne se remettra pas à croire au mythe, quoi qu'elle pense qu'il pourrait arriver sans lui. Pas plus qu'un adulte ne se remettrait à croire au Père Noël parce qu'il ne sait pas si Noël fonctionnerait sans lui. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ou là où vous préférez, car ça rend le podcast plus visible et donc ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la quatrième partie de « La superstition la plus dangereuse », « Je gouverne moi, vous gouvernez-vous ».